Bonsoir à tous les hommes, alléluia, et les jeunes hommes, alléluia, bienvenue à notre moment de, un moment d'arrêt, un moment pour revenir aux fondamentaux, alléluia, et je suis content que nous puissions avoir ce moment pour partager ensemble, alléluia, pour partager ensemble et comprendre la direction de Dieu dans chaque ce que Dieu attend de nous dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alors, je voudrais saluer également nos bien-aimés qui sont certainement en ligne, qui nous suivent. Alléluia. Qui ne manquent pas à cause de pas mal de contraintes. Ils sont obligés de nous suivre depuis les différentes plateformes. Alléluia. Alors, cet après-midi, comme nous l'avons indiqué dans la communication liée à ce séminaire, à ce programme, le thème est que les hommes s'asseyent. Alléluia. Que les hommes s'asseyent. Amen. Que les hommes s'asseyent. Dis à quelqu'un, assois-toi. Alléluia. Assois-toi. Que les hommes s'asseyent. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir rapidement notre Bible dans le livre de Jean chapitre 6. Nous allons prendre le verset 12, le verset 9 au verset 12. Le verset 9 au verset 12. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 9 au verset 12. Alors, je vais lire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il les donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Alléluia. Je prends une deuxième fois la lecture. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Assois-toi, bien-aimé. Que les hommes s'asseyent. Oui, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur nous donne ce texte. De quoi il est question? Essayons de recentrer un peu l'histoire. Alléluia. Il se trouve que le Seigneur quitte Jérusalem et qu'il est en train d'aller de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Et pendant qu'il s'y rend, une grande foule le suit. La Bible dit que cette foule le suivait, pourquoi? Parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alléluia. La Bible dit que Jésus va donc continuer son chemin, et il va monter sur une montagne. Et là, il va s'asseoir. Et c'était la période de la Pâque. Alléluia. La fête des Juifs. Et donc, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et la Bible dit que lorsque Jésus va lever les yeux, il va voir une grande foule qui venait à lui. Et il va appeler Philippe. Il va dire à Philippe, où est-ce qu'on peut acheter du pain ou du moins quelque chose à manger pour toutes ces foules-ci? Et la Bible dit qu'il disait cela, il posait cette question à Philippe pour l'éprouver. Alléluia. Pour éprouver qui? Philippe. Alléluia. Jésus, vous savez, chaque fois que le Seigneur pose une question à un homme, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Il a un objectif à atteindre. Et la Bible dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Et la Bible dit que Philippe va donc faire un constat. Philippe va dire, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient même pas pour que chacun en reçût un peu. Amen. C'est-à-dire que toute notre caisse que nous avons, on a pratiquement 200 deniers. Même si on utilisait toute cette caisse-là pour acheter du pain, ça n'aurait pas suffi même un bout à chacun qui est ici présent. Alléluia. Alors il va, et la Bible dit qu'un des disciples qui était aussi à côté, qui suivait la conversation, qui s'appelait André. Alléluia. André, qui était le frère de Simon, va dire, va donc donner sa contribution dans cette conversation. La Bible dit qu'il va dire au Seigneur, « Ah, Seigneur, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 5 pains d'orge et 2 poissons. » Il dit, « Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Alléluia. « Qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» La Bible nous dit ici dans le livre de Jean, et c'est pourquoi Jean est très spécifique, Jacques cite même les gens qui ont parlé. Il cite Philippe, il cite André. Dans une autre évangile, Jésus va parler et puis il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Il ne va pas, la Bible dit que quelqu'un va seulement dire, il y a quelqu'un ici qui a du pain, qui a du poisson. Alléluia. Mais Jean dit, Philippe a posé telle question et André a dit, il y a quelqu'un qui a 5 poissons, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Alléluia. Et Jésus va donc dire, ok, c'est suffisant. Ce que nous allons faire, faites asseoir tout le monde. Faites asseoir tout le monde. Alléluia. Faites asseoir tout le monde. Il dit, faites-les à asseoir. Alors, la première chose que j'ai envie de nous dire ce soir, bien-aimés, c'est que toute intervention de Dieu dans les affaires de la terre est fonction de l'alignement des hommes sur la volonté et sur les voies de Dieu. Alléluia. Toute intervention de Dieu dans les affaires des hommes, toute intervention de Dieu dans les affaires de la terre est fonction de l'alignement des hommes sur Dieu ou sur ses voies. Alléluia. Alors, chaque fois que tu souhaites que Dieu intervienne dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu sois aligné sur la volonté de Dieu. Tu sois aligné sur les voies de Dieu. Tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu, n'espère pas l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si un homme ne se soumet pas volontairement à Dieu, il se soumettra de force à l'autorité du diable, naturellement. Alléluia. Alors, la Bible nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul parle là, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alléluia. La suite du verset, c'est que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, notez ceci. Ça veut dire qu'il y a des bons, il y a des bonnes œuvres, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour demain. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour dans un mois. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour dans une semaine, pour dans un an, concernant chacune de nos vies. Mais nous ne pouvons entrer dans ces bonnes œuvres que lorsque nous allons nous aligner sur la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est très important. Alors, une autre chose qui est intéressante dans ce passage que nous venons de lire, c'est le verset 10. Il dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ combien? 5 000. 5 000 quoi? Hommes. On n'a pas dit hommes, femmes et enfants. Alléluia. Dans la tradition juive, ou bien dans la tradition biblique, les femmes et les enfants ne sont pas comptés lors du dénombrement. si on parle de 5000 hommes, vous devez vous rendre compte que, n'ayant pas associé les femmes, n'ayant pas associé les enfants, et sachant que dans les choses spirituelles, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes, il faut voir que la foule là, si les hommes étaient 5000, les femmes devraient être peut-être 8000. Et si les femmes sont 8000 et qu'il y a sur les 8000, il y a 5000 femmes qui ont des enfants, au moins 2 ou 3. Donc il faut voir que la foule était environ 15000 personnes que Jésus a nourri avec 5 pains de poisson. Alléluia. Ça c'est un calcul rapide. Amen. Donc, ceci pour nous faire comprendre que quoi, bien-aimé? Chaque fois que tu t'alignes sur la volonté de Dieu, la provision ne manquera pas à ta vie. C'est pourquoi, en tant qu'homme, nous devons nous aligner sur les plans de Dieu pour voir la provision de Dieu intervenir dans nos maisons, intervenir dans nos affaires, intervenir dans nos entreprises, intervenir dans nos projets. Alléluia! Tant que ce sont tes idées, ce sont tes stratégies, tant que ce sont ta conception qui prend le dessus, la main de Dieu ne peut pas se glorifier. Alléluia. La main de Dieu ne peut pas se glorifier. Bien-aimé. Mais pour que nous puissions arriver à ce niveau, nous devons nous asseoir. Nous devons nous asseoir. Qu'est-ce que ça signifie s'asseoir, bien-aimé? Qu'est-ce que ça signifie s'asseoir? C'est très important parce que s'asseoir signifie deux choses. Premièrement, s'asseoir signifie se soumettre. Se soumettre volontairement. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de réussite sans soumission. Vous voyez? Psaume chapitre 101, le verset 1. Psaume 101, le verset 1, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi à ma droite. Bien-aimé, tu dois t'asseoir et laisser Dieu travailler. Tu dois te soumettre et laisser Dieu travailler. Tu dois laisser tout entre les mains du Seigneur. Tu dois arrêter de vouloir prendre toujours le devant de chaque chose. Permets au Seigneur de travailler. Dis à quelqu'un, assois-toi. 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 Bien-aimé, quand nous parlons de s'asseoir signifie se soumettre, s'asseoir, si nous voulons aller plus loin dans la réflexion, nous allons comprendre que s'asseoir également, non seulement c'est la soumission, mais c'est également au-delà de ça, l'abandon de soi. L'abandon de soi. Alléluia. Oh Seigneur, j'abandonne tout. J'arrête d'être l'homme. J'arrête d'être le patron. J'arrête d'être le chef. J'arrête de croire que je suis trop intelligent. J'arrête de croire que j'ai toute la compréhension des choses au devant de moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'humilité dans le cœur de l'homme est une demande pour que Dieu l'élève dans les rangs de la destinée. Alléluia. Tu as besoin d'être humble pour entrer pleinement dans ce que Dieu veut que tu fasses. Alors si le Seigneur te dit, fais ceci, va à gauche, tu décides de dire, non, moi, non, allez à gauche, non, moi, je suis un homme, j'ai la logique, j'ai la réflexion, j'ai des formules, tu ne vas aboutir à rien. Tu ne vas aboutir à rien. Mes bien-aimés, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, ce n'est pas automatiquement quelqu'un qui se frappe la poitrine. Un orgueilleux, c'est celui qui refuse de marcher selon le plan de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous asseoir. Nous sommes arrivés à une saison dans notre vie où nous nous sommes toujours levés. On est debout dans toute situation. On est debout, depuis qu'on est debout, les choses ne marchent pas. Asseyons-nous. Laissons Dieu travailler. Permettons au Seigneur de travailler. Permettons au Seigneur de démontrer sa puissance, de démontrer son autorité, de démontrer sa grandeur. Alléluia. Nous devons nous asseoir. Nous devons nous asseoir. S'asseoir signifie donner la première place. Donner la première place. Seigneur, tu as la première place dans ma vie. Seigneur, tu as la première place dans mes affaires. Seigneur, tu as la première place dans mon mariage. Seigneur, tu as la première place dans mes finances. Seigneur, tu as la première place dans mes études. La première place. Alléluia. Voyez, si ces hommes, alors que Jésus avait dit, faites-les asseoir, et que chacun avait dit que non, je me bats par moi-même, il y aurait eu beaucoup de morts dans le désert. Est-ce qu'on comprend ça? Il y aurait eu beaucoup de morts dans le désert. Il y aurait eu beaucoup de morts. Alléluia. Le désert ne connaît pas le trône. Le désert ne connaît pas la grandeur. Le désert ne connaît pas l'argent. Alléluia. Mes bien-aimés. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous sera donné par-dessus tout. Toutes choses, bien-aimés. Nous devons donner la première place au Seigneur dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, dans nos stratégies de vie. Nous devons donner la première place. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. La situation est compliquée, mais je te donne la place. Alors, une question qui vient à mon esprit. Depuis que tu te bats par toi-même pour résoudre le problème, est-ce que tu y arrives? Alléluia. Chaque fois que tu entreprends un projet et que tu veux mettre toute ton intelligence dedans, est-ce que tu y arrives? Non. Mais chaque fois que tu dis, Seigneur, prends la première place, il fraye le chemin et il se glorifie. Et il se glorifie. Bien-aimés, nous vivons un temps où les hommes veulent prendre la place de Dieu. Nous vivons un temps où les hommes veulent prendre le trône de Dieu. Ce n'est même plus Satan, c'est l'homme. Alléluia. Au départ, c'était le projet de Satan. C'est devenu le projet de l'homme. Lui-même veut qu'on parle de lui. Qu'on sache qu'il est là, qu'on sache qui il est. Et bien aimé, que signifie s'asseoir? S'asseoir signifie prendre sa place. Alléluia. Premièrement, j'ai dit s'asseoir signifie quoi? Se soumettre. Deuxièmement, s'asseoir signifie donner la première place à Dieu. Amen, c'est ça, n'est-ce pas? Pardon? S'abandonner à Dieu, voilà. S'abandonner à Dieu. Troisième signification de s'asseoir, bien-aimé, c'est prendre sa place. Bien-aimé, dans la destinée, votre place est déjà préparée. Alléluia. Dans le plan de la destinée, votre place est déjà préparée. Rappelez-vous ce que je vous ai lu tout à l'heure. Éphésiens 2, 10. Alléluia. Rappelez-vous ce que j'ai lu. Et Paul dit quoi? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il y a déjà des bonnes œuvres. Il y a déjà une place que tu dois occuper. Il y a déjà une position que tu dois occuper. Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, le verset 11. Il dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Vous voyez? Personne n'occupera la place de quelqu'un. Et personne ne peut occuper la place de quelqu'un. Quand on occupe la place de quelqu'un, c'est lorsque la personne a abandonné. Regardez dans le cas de Judas. Quand Judas est parti se pendre, quelqu'un d'autre a pris sa charge. Alléluia. Quelqu'un d'autre a pris sa charge. Chaque fois qu'un homme abandonne, chaque fois qu'un homme démissionne, Dieu lui trouve un remplaçant. Mais tant qu'un homme reste et cherche à occuper cette place, Dieu l'accompagne. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que tu es? Votre place est préparée, mais il est de votre responsabilité, de notre responsabilité, de prendre la place qui nous a été préparée. Alléluia. Si tu ne te lèves pas pour prendre ta place, tes ennemis vont même être contents que tu ne t'asseyes pas là. Alléluia. Pour s'en approprier. Pour s'en approprier. Si vous devez trouver votre place, vous devez prendre votre place par la connaissance et la révélation de votre destinée. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas prendre ta place si tu ne connais pas. Tu ne peux pas prendre ta place si tu n'as pas la révélation. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais comment? Comment nous sommes assis? Et tu passes par tout ce que tu passes. Mais tant que tu ne comprends pas la relation entre le spirituel et le physique dans ta vie, tu ne pourras jamais t'asseoir. Alléluia. Il y aura toujours une déconnexion. Il y aura toujours une déconnexion. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes. Ils marchent dans tous les coins, ils vont de gauche à droite, ils n'ont pas, parce qu'il n'y a pas cette connexion entre eux et le monde spirituel. Il n'y a pas cette connexion, cette intimité avec le Créateur. Bien-aimé, ce soir, je voudrais t'encourager à travailler plus que jamais ta communion et ton intimité avec ton Dieu. De ton intimité et de ta relation avec Dieu dépendent de tous les autres aspects de ta vie. Tout dépend de ça. Tout dépend de ça. Tout dépend de ta relation. Je n'ai pas dit ta relation, je n'ai pas dit de travailler ta relation avec l'apôtre. Amen. Non. Je n'ai pas dit de travailler ta relation avec le pasteur Emma. Ah non, comme on est trop familier, on s'aime beaucoup là. Non, il faut que je... Non. J'ai dit avec qui? Avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, faites asseoir. Faites asseoir. Ce soir, tu es venu prendre ta place. Ta place en tant qu'homme. Ta place en tant que bâtisseur. Ta place en tant que celui sur qui Dieu compte. Pour pouvoir influencer ta famille, influencer tes frères, tes sœurs, influencer tes collègues, tes amis, alléluia, tes voisins, tes voisines. Si après un an dans la foi, personne, aucun ami proche à toi n'est au courant de ta foi, tu as un problème. Alléluia. Parfois, je discute avec Emma, il me dit comment aller au travail. Parfois, il regarde le culte avec ses collègues. Il dit, venez écouter. Venez écouter. Alléluia. Il met sur son téléphone, il se connecte et tout le monde écoute. Ceux qui se moquent, ceux qui restent calmes, ceux qui disent, mais l'histoire là, c'est vrai. Mais à la fin, il y a une sémence qui reste. Aujourd'hui, par cette même attitude-là, le pasteur Emmanuel a attiré dans la maison de Dieu Gabriel. Par Gabriel, sa femme, Nafi. Alléluia. Donc, nous pouvons voir que si nous ne prenons pas notre place, il y a beaucoup qui vont se perdre. Il y a beaucoup qui vont se perdre et Dieu nous redemandera leur sang. Alléluia. Oh non, moi je vis ma vie spirituelle. Moi, vraiment, je reste dans mon petit coin. Je ne veux pas, moi, les problèmes. Les problèmes vont te trouver. Alléluia. Les problèmes vont te trouver. Oui, je suis d'accord que les gens se moquent. Oui, je suis d'accord que les gens te trouvent bizarre aujourd'hui. Ben parce, justement parce que tu es en train de changer de position. Alléluia. Tu n'es plus à la place où ils te connaissaient. La place où ils te connaissaient, c'était un client assidu de la Amstel. Alléluia. Tubor. Amen. Guinness. Hein? Quoi d'autre, Papa Joe? Golhap, voilà. Tous ces goûts-là. Alléluia. Donc, tout ce qui mousse, et tu prenais seulement. Alléluia. Tu arrivais, on dit que, ah, tu étais. Comment on appelle ça? Le truc que, quand on s'assoit, on fait le tour de la boisson, là. Il est tourné. Voilà. Tu étais régulier dans les tournées. Amen. Mais aujourd'hui, ils ne te comprennent plus. Ils se comment avec toi? Tu es devenu comment? Ah non. Ah, avant, papa Maté était régulier dans les neuvaines. Alléluia. Du jour au lendemain, la fête là le fatigue. Alléluia. Quand tu l'amènes même à une fête le soir, il dort à la fête. La fête où il était chaud pour tout voir jusqu'au matin. Dieu est en train de le déplacer. Ce n'est plus sa place. Alors, quand tu quittes un endroit, l'endroit ne te reconnaît plus. Quand tu reviens même là-bas, l'endroit dit, je ne te connais plus. Tu es qui? Ton code d'accès a été annulé. C'est comme quand tu vas au travail, tu dois mettre une carte d'accès. Ta carte d'accès, on a annulé. Quand tu viens, on dit, sa main rouge, ça ne te reconnaît plus. Alléluia. Ma prière, c'est que tu prennes ta place. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que témoin de Christ, au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, oui. Un homme qui se préoccupe des besoins des hommes, sa vie devient fardeau pour Dieu. Alléluia. Sa vie devient fardeau pour Dieu. Vous savez, bien aimé, chaque femme fera confiance à un homme qui est un leader. Chaque femme fera confiance à un homme qui prend sa place, qui n'est pas irresponsable. Amen. Prendre sa place, c'est être responsable. C'est être responsable, c'est assumer. Mais lorsque tout ce que tu sais faire, ah, je n'ai rien. Ah, je ne connais rien. Ah, vraiment, faites comme si je ne suis pas là. Mais, on va te manquer de respect à tous les coups. Alléluia. Voyez? Tout simplement parce que c'est, elle lui fait confiance. Pourquoi? Parce que cette personne sait. Parce que cette personne peut lui assurer son avenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Tu dois prendre ta place. Tu dois prendre ta place au nom de Jésus. Alors, évoluons un peu. Alors, lorsqu'un homme ignore donc le but de sa création, son existence est naturellement abîmée, ratée, détruite, et devient celle d'un animal. Il vit comme un animal. C'est pourquoi tu vas voir un homme dehors. Sa vie va être seulement femme. Tu vas dire, mais tu fais même comment pour... Il dit, mais oh, mon frère, j'ai les opportunités. Mais tu ne comprends. Alléluia. Tu dis, mais tu arrives à faire ça comment? Aujourd'hui, hier, par exemple, j'imagine certains étaient un peu... pouvaient prendre 3, 4, 5 biens ici au milieu de nous. Alléluia. Sans vaciller. Il s'est levé, il était tout droit. Même le casier ne te faisait pas vaciller. Alléluia. Mais aujourd'hui,
Quand tu vois même, ça te dérange. Alléluia. Ça te dérange. Tu regardes la bière, tu dis, mais tu es même dépassé, tu te poses la question. Je faisais comment hier? Alléluia. Je faisais comment pour m'asseoir? Bois jusqu'à 12 bières. Et rentrer chez moi et dire, je suis heureux. Alléluia. Et rentrer chez moi et dire que mes problèmes sont finis. Alors que tes problèmes attendent seulement que tu reviennes en toi. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons comprendre le but de notre création. L'existence hors de Dieu et de ses plans est un non-sens. Est une vie sans valeur. Votre subsistance, c'est-à-dire votre provision, en tant qu'homme, dépend de votre capacité à demeurer en présence de Dieu. Tout ce peuple ont eu ce qu'ils ont eu parce qu'ils sont restés en présence de Jésus. Bien-aimé, si tu sors de la présence de Jésus, tu manqueras. Psaume chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le jour où tu sors de la couverture du Seigneur, tu vas manquer automatiquement. Alléluia. Tu vas manquer automatiquement. Regardons le psaume 91. Psaume 91. Alléluia. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le psaume, n'est-ce pas? Psaume 91. Voilà le verset 1. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Ça veut dire que être sous la demeure, être demeuré sous l'abri du Très-Haut procure quoi? Le repos. Le repos. Le repos. Bien-aimé, tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. En demeurant sous l'abri du Très-Haut, automatiquement tu auras le repos. Automatiquement, il deviendra ton refuge, il deviendra ta forteresse. Il deviendra le Dieu en qui tu te confies. Il sera celui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et une cuirasse pour ta vie. Alléluia. Bien-aimé. Alors la subsistance d'un homme est fonction de sa compréhension des énergies de la terre. Toute manifestation de Dieu dans le domaine terrestre pour le bien de l'homme est conforme à la chair et au sang. Un homme mûr et parfait aux yeux de Dieu est celui qui n'est pas écrasé au milieu des bénédictions. Alléluia. Il y a des hommes matures. Il y a des hommes qui atteignent certaines maturités dans la vie. Et ils expérimentent ce que la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel enrichies. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'identité de l'homme ne peut être connue par la chair, mais par la révélation de la communion avec Dieu. Tu ne peux pas connaître ton identité par la chair. Ton identité, ce n'est pas le nom qui est écrit sur ton acte de naissance. Ton identité, c'est ce que Jésus a dit que tu es. Alléluia. Ton identité, c'est ça. Regardez Jacob, on lui avait donné une identité qui n'était pas la sienne. Il était un prince. Mais voilà, on lui a donné un nom qui affectait sa destinée, il est devenu un voleur, malgré lui. Alléluia. Il y en a beaucoup comme ça. À cause du nom qu'on leur a donné, on leur a affecté une identité qui n'est pas la leur. Et ils deviennent des esclaves alors qu'ils sont supposés être des princes. Quelle identité as-tu? Connais-tu ta vraie identité? Si je te pose la question, où est-ce que tu vas? À quoi Dieu t'a appelé? Amen. À quoi Dieu t'a appelé? Papa Joe, à quoi Dieu t'a appelé? Dans sa maison, ou bien pour son plan dans la vie, dans le monde entier. Alléluia. Parce que parfois on réduit, on croit que notre destinée est forcément liée à l'église. Hein? Non. Nous marchons dans l'église, mais notre destinée affecte le monde. Affecte le monde. Joseph n'a pas été appelé pour le peuple d'Israël, mais il a été appelé pour diriger une des nations les plus puissantes. Cette nation n'était pas chrétienne. Daniel n'a pas servi dans un royaume chrétien qui craignait Dieu, qui connaissait Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en général, le don et les grâces que Dieu nous donne, l'appel que nous recevons de la part du Seigneur, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est afin qu'ils réalisent que Dieu est Dieu. Alors, si Dieu me dit, ah, mon appel dans la maison de Dieu, c'est servir, c'est venir ranger les chaises. Non, 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 tu n'as pas compris. Toi, ça, c'est les détails. Amen. En quoi ça va influencer le monde si tu ranges les chaises? Est-ce que quelqu'un est avec moi? En quoi ça va influencer ta génération lorsque tu vas finir de nettoyer l'église? Eh papa Martin, ça va changer quoi? Ça ne change rien. Ça a développé quoi? Vous voyez? Alors, l'appel, la responsabilité de Dieu dans la vie d'un homme, c'est pour amener les hommes à réaliser qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu en lui. À cause du don qui était dans la vie de Joseph comme Daniel, les rois sous lesquels ils étaient ont reconnu qu'ils servaient le vrai Dieu. C'est pas ça? Regardez, Mardochée avait Esther. Alléluia! Le roi a fini par réaliser que le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu. Alléluia! Alors, si notre appel, si notre identité spirituelle, c'est seulement pour venir à l'église, s'asseoir, pape, après taper les mains, danser, après donner quelques contributions et rentrer chez nous, on n'a rien fait. On perd du temps. Amen. On perd du temps. Il est important que d'ici l'année prochaine, que les hommes se réunissent comme ça pour aller dans des orphelinats, soutenir, prier avec des orphelins. Alléluia. Encadrer d'autres enfants et leur dire, voici Dieu. Si nous faisons ça, c'est parce que Jésus nous a aimés. Amen. Voici le vrai amour. Je dis, waouh, je vais suivre ton Dieu. Ton Dieu là me plaît. Si c'est ça la foi, je veux m'engager aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette réunion est censée tourner dans les maisons des hommes. Pour que les hommes qui abritent puissent inviter les personnes qui ne peuvent pas par eux-mêmes, qui n'ont pas la possibilité facilement de leur parler de Jésus. Alors en venant, ils vont voir des hommes qui servent. Waouh! Est-ce que vous savez que le plein évangile a commencé, c'était des hommes d'affaires qui se réunissaient et invitaient d'autres hommes d'affaires. Et un partage son témoignage et les autres, waouh! Et à la fin, on prie, on dit qui veut donner sa vie à Jésus. Quelqu'un dit, waouh! Si c'est ça la foi, moi je m'engage aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, cette organisation est l'une des plus puissantes dans la vie, dans le mouvement chrétien. Le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. J'ai assisté à un quand je suis allé en Allemagne. Ils avaient organisé ça dans un restaurant. Et on y allait. Ils partagent son témoignage. On chante, on loue. Et pendant qu'on loue, on mange. On sait à manger, vous mangez, vous êtes fiers. Parce que les hommes du monde aiment ça. Tu vas faire tout, l'inviter, c'est à l'église, il ne viendra pas. Mais, par exemple, à côté de chez papa Joseph, là, il y a un bon restaurant à côté, là. Le jour, là, on dit, bon, on paye tout le service traiteur. Tu vas aller, tu vas dire, gars, viens, il y a à manger, il y a, ah, ah, C'est où? C'est un restaurant, c'est un hôtel, là, climatisation, on va regarder un petit truc. Il dit, waouh, j'arrive. Alléluia. J'arrive. Le jour-là. Celui qui a reçu la vision du plein évangile, il était paralytique. Un prophète, il est mort il y a quelques années. C'est lui qui avait eu cette vision d'organiser des sessions de prière dans les hôtels, plus dans les églises. Alléluia! Alléluia! On dit, waouh! Votre église là est bien. J'ai regardé un des pasteurs du pasteur Ivan Castanou pendant la CAN. Alléluia. Pendant la CAN, il a publié le match. On a mis l'écran géant à l'église. Et on a fait les jus, on a fait des repas secs là. Les gens sont venus manger, voir le match, ils étaient fiers. Le lendemain, du gars, il y a un bon endroit pour aller voir le match. Tu vois le match où? Il y a un endroit là-bas, on mange, on boit gratuit. Le deuxième jour, quand on finit le match, à la pause là, amen, on prêche. Il dit, hey. Non, c'est la mi-temps. Alléluia. C'est la mi-temps. Quels sont même des projets qui vont boucher la mentalité des gens? L'autre jour, il y a un voisin de papa Martin qui est un peu plus en haut là-bas. Il s'appelle Bonga. Tu connais? Il est un peu là-bas, il est maire, il est conseiller municipal. Par les six consens, on est tombé là, on l'a connu. On a discuté. Il a dit que votre église est même où? J'ai dit, c'est ici en bas, il est en bas là-bas. Donc, vous êtes en bas là-bas? Il dit, non, allons voir. On est descendu. Il arrive, il dit, c'est pas vrai. Il monte sur la dalle, il voit les trucs, il dit c'est pas possible, il me salue, il dit que mais tu n'es pas normal, mais tu as une vision, c'est les gens comme toi qu'on cherche à Bifaka, pour développer Bifaka. Tu vois, sa tête a commencé à travailler. Il dit mais c'est vous qui avez fait venir la lumière? Il dit non, mais vous étiez où depuis? On fait les réunions là-bas, on ne voit personne de l'église. Il dit, non, on n'a jamais eu d'invitation à venir à la réunion. Nous, on ne refuse pas la réunion, sauf que ça ne doit pas tomber le dimanche. Ben, le dimanche, c'est notre jour. Amen. Vous aimez faire les réunions le dimanche. Bien-aimés, nous devons nous asseoir, nous devons connaître qui nous sommes, où est-ce que nous allons. Est-ce que nous allons continuer à venir chaque samedi, je ne sais pas combien de tout, venir ici, s'asseoir. Oh, c'était bien aujourd'hui, on a bien mangé, oh alléluia. Voilà. Ça a changé quoi? Rien. Ah, ok, dans deux semaines, hein? Ok, deux semaines, on va écrire sur le forum. Où sont les hommes? On est déjà arrivé. Les hommes ont disparu. Chacun cherche son argent. Chacun est dans son business. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais tant que nous n'avons pas un vrai projet, ça va être ainsi. Amen. Tant qu'on n'a pas un projet qui captive les hommes et où les hommes se sentent, ils disent non. Parce que les hommes, c'est quoi, bien-aimés? Les hommes ne sont pas comme les femmes. Les femmes peuvent perdre du temps. Les hommes ne connaissent pas perdre du temps. Il faut que s'il vient là, il y ait un projet spécifique à faire. Et on doit le faire dans un temps record et avancé.
Voilà Abel, il court, il arrive, il sort de son business, il faut qu'il trouve qu'il y a un autre business ici. Tant qu'il n'y a pas le business ici, il ne va pas venir à l'heure. Amen. Tant qu'il ne réalise pas qu'ici là, il peut rencontrer d'autres partenaires d'affaires avec qui s'associer pour que le plan de Dieu dans son ensemble devienne une évidence. Lui, il fait dans la restauration. Lui, il fait dans les poissons. Pendant qu'il fait dans la restauration, il propose ses poissons. Bon, il y a des poissons ici, je peux prendre, livrer à tel prix. Hein? Ça fait des partenariats. Qui fait qu'on s'asseye? Amen. Maintenant, il peut développer des mets à partir des poissons que lui, il élève. Tu élèves quel type de poisson? Moi, j'élève tel type de poisson. Ok, je vais proposer à mes clients des mets qui feront qu'ils seront obligés de prendre ce type de poisson. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit ça? Alors, si chaque jour vient, alors comment on va faire pour que le feu, pour qu'on puisse nourrir d'autres personnes? Jésus a nourri, il a fait asseoir, il a fait asseoir, ils ont mangé. La Bible dit qu'il a donné autant qu'il voulut. Autant. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas mangé un poisson. Hein. Il a mangé plus d'un poisson. Il a mangé jusqu'à son ventre était rassasié. Il a dit mince. Jusqu'à ça allait sortir par les oreilles. Il a dit non, Jésus. C'est pourquoi Jésus est le plus grand serviteur du monde. Il n'y a pas de plus grand restaurateur que Jésus. Lui, il a fait dans la restauration, dans le service traiteur. Il sait comment organiser les tables. Alléluia. Il dit, mettez en 10-10, mettez en 50, mettez en 100-100. Organisez les groupes de temps-temps et distribuez la nourriture. Maintenant, il envoie les responsables des tables. Il dit, allez récupérer le reste. Allez récupérer. Il ne doit pas avoir de manque. C'est pourquoi quand quelqu'un gère ton service, il rentre toujours avec un reste. C'est biblique. C'est biblique. Si il te dit qu'il n'y a rien, tu dis que c'est faux. C'est biblique. Est-ce qu'elle vient de révéler un secret? C'est biblique. Il rentre toujours avec le reste. C'est biblique. Jésus a dit que récupérer le reste. La Bible dit que le reste, c'était combien? 12, plus de 12 paniers. Alors qu'au départ, c'était combien? 5 pains et 2. Plus de 15 000 personnes ont mangé. Il est resté encore combien? 12 paniers. Hey! Quand tu gères le service, tu dis pardon, même si tu pars, hein, laisse-moi un panier pour le retour. Alléluia. Pour le retour. Et pourquoi quand je prends Abel pour faire un repas, il dit tu comprends, non? Il dit non, il comprend. Il part d'abord faire le stock chez moi. Alléluia. Pour le lendemain. Amen. Même le jour de mon mariage, le monsieur qui avait fait le mariage, c'était un jeune homme que j'avais encadré dans la prière. Et pour me remercier, il a dit qu'il va faire le repas de mon mariage. Et je lui ai dit que tu me mets d'abord une partie de la nourriture à la maison. Maintenant, tu peux rentrer avec le reste s'il y en a. Je sais qu'il y a le reste. Parce que bibliquement, c'est possible. Alléluia. Voilà, voilà, Emma était là. C'est lui qui gérait la Cambus. Et nous, on avait fait une prière, maman et moi, que tous ceux qui nous avaient aidés à ce mariage, que Dieu leur donne leur mari, leur femme et leur mari. Alléluia. Et les années qui ont suivi, les Emma ont commencé à se marier eux aussi. Tous ceux qui étaient au mariage, Alex, qui allait au Canada, il était là. Sa fiancée était là.
Après ça, on a célébré leur mariage. Alléluia. Frère, tu as besoin de t'asseoir. Tu as besoin de connaître qui tu es. L'identité. Plusieurs d'entre nous ont laissé les circonstances, les hommes, y compris nous-mêmes, nous coller des identités qui ne sont pas les nôtres. Nous coller des identités négatives, circonstancielles. Regardez Rebecca, qui a donné à son fils le nom de Jacob, usurpateur. Donc, tout ce qu'elle a trouvé dans tous les prénoms qui existaient, elle a trouvé Jacob. Alléluia. Ce nom s'est destiné à suivre cet enfant presque toute sa jeunesse et a failli annuler les desseins de Dieu à son égard. Une autre mère, figure d'autorité, a mis en cage l'avenir de son fils en l'appelant Jabez. Voilà l'autre. Ou bien elle avait bu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur? On n'en sait rien. Alors, avec quelle identité vivez-vous aujourd'hui? Qui vous a donné cette identité? C'est quoi nous devons réagir comme Jabez? Jabez s'est levé, il a prié. Il a crié à l'Éternel. Nous devons nous lever et refuser cette identité négative. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons prononcer des paroles de gloire sur nous-mêmes et sur notre famille. Les paroles du Seigneur. Nous devons confesser la parole de Dieu sur nous et sur les circonstances. Pourquoi? Parce que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez, bien-aimé. C'est quoi la statue d'un homme? C'est mesure à la conformité de son caractère. C'est mesure à la conformité de son caractère. Au caractère de Dieu tel qu'il est révélé en Christ. La statue d'un homme, ses mesures à la statue qui est conforme à celle de Christ. Amen. Alors, vous savez, le jour où nous allons nous retrouver devant notre maître, notre Seigneur, la seule chose que Dieu va rechercher dans chacune de nos vies, ce n'est pas tout ce que nous sommes, hein, c'est est-ce que tu as l'image de Jésus en toi? Amen. Est-ce que tu as l'image de Jésus en toi? C'est ça qui est important pour le Seigneur. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Alléluia. Alors, il y a deux choses qui doivent nous interpeller en ce qui concerne l'homme. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme, tel que tu es là, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Deuxième caractéristique de l'homme, toujours dans le même Genèse chapitre 1, le verset 26, c'est que l'homme est créé pour dominer. Il dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles. Moi, j'aime beaucoup la parole parce que ça nous indique quels sont les adversaires qui vont le plus affecter nos vies. Les reptiles. Les reptiles. Les reptiles. Donc, depuis le commencement, Dieu savait que tu n'aimes pas le serpent. Amen. Et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors ce soir, je voudrais encourager chacun d'entre nous à nous asseoir au pied de notre Seigneur. Alléluia. À nous asseoir. À nous asseoir. Mais tu ne peux pas t'asseoir si tes mains et ton cœur ne sont pas purs. Alléluia. Tu ne peux pas t'asseoir si tes mains et ton cœur ne sont pas purs. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée 2, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Alléluia. en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Comment on rend impures les mains? Tout simplement, lorsqu'elles ne sont pas pures. Comment on rend les mains impures? Par la colère et par les mauvaises pensées. Alors, quelqu'un va dire, mais quel est le rapport entre les mains et les pensées? Alléluia! Quel est le rapport entre les mains et les pensées? Quelle est la relation? Sans colère ni mauvaise pensée. Alors, chaque fois que tu as les mauvaises pensées, chaque fois que tu as sali tes mains, chaque fois que tu es rempli de colère, sache que tu as sali tes mains. Alléluia. J'avais-moi, oh Dieu mon Père, par le sang de Jésus, purifie mes mains. Purifie mes mains. Purifie mes mains. Purifie mes mains. Au nom de Jésus. Assois-toi, bien-aimé. Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus. Alors, comment on rend son cœur impur quand ton cœur n'est pas résolu? Quand ton cœur est partagé, ton cœur est impur. Alléluia. Quand ton cœur est partagé, quand ton cœur ne prend pas de décision, quand ton cœur est irrésolu, naturellement. Alléluia. Dis avec moi, oh Dieu mon Père, par le sang de Jésus, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mes mains, purifie mon cœur, purifie mes mains. Purifie mon cœur, purifie mes mains. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Nous avons dit, s'asseoir, c'est se soumettre. C'est ça, n'est-ce pas? Se soumettre. La soumission est à plusieurs niveaux. La soumission est au niveau d'abord de Dieu. Nous nous soumettons au Seigneur. Alléluia. Nous nous soumettons au Seigneur. C'est très important de se soumettre au Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu n'es pas soumis à Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alors, bien-aimé, le diable, tu ne peux pas avoir la capacité de résister au diable et qu'il fuit loin de toi si tu n'es pas soumis à Dieu. C'est ta soumission à Dieu qui te donne la capacité de résister. Qui te donne la force de résister. Alléluia. Jacques est clair. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, c'est très important. Nous devons nous soumettre à Dieu. Deuxième niveau de soumission. La soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit clairement dans Jean chapitre 1. Le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Alors, en se soumettant à la parole, nous nous soumettons à Dieu. Alléluia. Si tu ne te soumets pas à la parole, tu es désobéissant à Dieu. Souvenez-vous de Saül qui a perdu son royaume parce qu'il a désobéi aux instructions que le Seigneur avait données par la bouche de son prophète Samuel. Alléluia. Et le Seigneur a dit quoi? L'obéissant vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance pire que la divination. Un sorcier, un désobéissant est un sorcier. Il n'est plus qu'un sorcier. Tu vois? Il dit qu'elle est pire que la divination. Donc Dieu va pardonner même un sorcier facilement qu'un désobéissant. Alléluia. 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 Alors ne sois pas un désobéissant. Amen. Troisième niveau de soumission, c'est soumettre à ses serviteurs. Alléluia. C'est soumettre à ses serviteurs. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux 13, le verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Amen. La suite du verset se dit que quoi? Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Oh, j'aime ce verset. Ce verset est complexe. Qu'est-ce qu'on essaie de dire ici, Papa Martin? Paul essaie de nous dire ici que nous devons avoir du respect. Nous devons avoir de l'honneur pour ceux qui nous encadrent spirituellement. Alléluia. Nous devons faire attention à ces éléments-là. Nous devons avoir de la déférence pour eux. Pourquoi? Il dit parce qu'ils veillent sur nos âmes. Amen. Ils veillent, ils sont les gardiens de nos âmes. Parce qu'ils doivent rendre compte devant Dieu concernant ton âme. Alléluia. Alors, la suite du verset, c'est quoi? Hébreux 13, 17, tu l'as? Tiens. Amen.
Alors, il écrit la suite, il dit, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien.
Ah, et ça veut dire que c'est à ton désavantage quand celui qui a la charge de ton âme gémit, est attristé en ce qui te concerne. Alléluia. Alors, je prends un exemple simple. Tout le monde ici, nous avons eu des papas, d'autres sont partis, d'autres vivent encore. Amen. Chaque fois que ton père était triste à partir de te concernant, est-ce que les choses avançaient? Ça, c'est sur le plan physique. Hein? Amen. Ça, c'est sur le plan physique. Alors, si ton conducteur, celui qui attache la charge de veiller sur ta vie, est triste à cause de toi, monte, tu descends. Dieu tiendra compte de sa tristesse te concernant. Amen. Dieu tiendra compte de son gémissement te concernant. C'est pourquoi il faut faire très attention d'attrister ton conducteur. Il dit que nous devons faire en sorte qu'il soit comment? En joie. En joie. En joie. Alors, si ton conducteur est triste, ça veut dire que ton âme est devenue un fardeau, une charge qui l'épuise. Alléluia. Il y a quelque temps, je crois, il y a peut-être, avant le camp, amen, avant le camp des jeunes, on a eu une réunion au niveau de la région de l'Église universelle de Dieu. Et les pasteurs ont commencé. J'ai dit, je ne sais même pas d'où le commentaire, d'où le divers a commencé. Même pasteur a ouvert un dossier, il a dit que papa, je ne peux plus me taire. Il y a un de mes chrétiens qui est comme ça. Maman. Chaque pasteur a commencé à dire sa part. J'ai dit, chaque pasteur était blessé. 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 Alléluia. Et chacun parlait. Et j'ai eu l'impression que ce moment-là, c'était comme une thérapie. Ça l'est. Oui, bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup d'endroits où nous pouvons dire tout ce qui nous blesse. Hein? En dehors de Papa André, que je vais et que je déverse tout là-bas et je reviens ici sourire devant vous. Amen. Quand nous allons à ces réunions-là, j'écoute des choses. Parfois, je reste calme.
J'écoute, je dis que wow. Donc je pleure là. Donc je vois le type qui vient bien là. Il est dans la mort. Alléluia. Il est dans la mort. Ces chrétiens ne l'ont pas loupé. Il y a un on racontait, un pasteur a raconté, un frère qui est quitté d'une église d'un autre pasteur, toujours de la région. Il est venu là-bas parce qu'il a vu prêcher la Bible. Il a dit que non, je crois que son appel est comme mon appel, je le suis. Il n'a pas dit à son pasteur. Donc du jour au lendemain, l'autre pasteur dit, mais il le salue à la fin du culte. Il dit, mes frères, je te remarque quelque part. Il dit que oui, papa, tu as prêché dans l'église de papa tel là. C'est là-bas que j'étais. Donc maintenant, je suis ici. Tu es ici comment? Il dit que non. Il reste calme. Le pasteur prend son téléphone. Il dit que frère, tu es au courant que ton chrétien est ici. Il dit, papa, laisse le dossier. La malade a dépassé. Dis, toi-même, tu peux gérer. Hein? Gère comme tu peux. Vous ne pouvez pas imaginer. Le gars est resté dans l'église du pasteur. Et l'autre pasteur lui a dit, je ne vais pas beaucoup dire, mais fais attention. Il dit, d'accord, je comprends déjà ce que tu... D'accord. Chaque jour, je dis, oh Dieu, il est venu là en entretien, l'homme de Dieu l'a reçu. Il a commencé à dire, papa, moi, Dieu m'a appelé, j'ai un appel prophétique. J'ai tout fait dans l'autre ministère. J'ai tout fait. On ne reconnaissait pas mon appel. Il dit, ok, d'accord. Bon. Il a écouté. Chaque jour, il y avait service. Un jour, il a dit, bon, comme tu as un appel, il ne faut pas qu'il frustre aussi ça ici. Prends aussi le micro mercredi prochain, tu fais l'exhortation. Prends. L'homme de Dieu dit qu'il était encore dans son bureau. Quand il entend, canaille prophétie, il dit quoi? C'est arrivé jusqu'ici. Prophétie, man of God. We need prophecy. Il dit quoi? Il sort ce tiers-là, il dit que, à qui j'ai donné mon micro? Le gars prophétisé. Le culte qui est censé finir à 20h, l'onction prophétique a débordé, frère. C'était comme si c'était son jubilé. On a récupéré le micro par la force. Ça me rappelle papa Koum, un de mes papas qui était à Makepe. Il avait fait une campagne d'évangélisation. Il a associé un pasteur qui fait dans la délivrance. Et comme lui, il n'est pas trop dans les trucs de la délivrance, tu vois. Donc, et dans les prophéties, le pasteur là, c'était ici au rond-point Makepe, au rond-point Petit Pays, juste au rond-point là, donc dans le jardin là. Donc, il avait exposé tout son truc. Et comme les pages étaient dans les immeubles là-bas en haut, donc les pages entendaient. Et quand l'homme de Dieu prêche premier jour, deuxième jour, il donne aussi à l'autre frère, là, à l'autre collègue là, il dit, bro, prêche ta part. Prêche aussi l'évangile. Il dit, non, il est dans l'évangélisation. Quand il prêche, après il dit que, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, quelqu'un qui est dans l'immeuble L, chambre temps. Merde. Le papa là, il a dit que c'est quoi ça? Il n'a même pas bavardé. Hein? Il est parti là où il y avait le jus. Il a tout débranché. Bam! Le gars, est-ce que je peux prophétiser? Il dit, ok. Il n'y a plus rien. Quand tout l'a développé, là, comme ça, descend de mon pupitre, mon frère. Frère, ne simplifiez pas le travail que les conducteurs là ont sur nos âmes. Vous avez vu le jour où, l'année passée, quand on a offert les trophées ici, on a donné le trophée à Papa André, il a pleuré. Vous avez écouté ce que Papa André a dit?
que vous, depuis qu'il sait Dieu, personne ne l'avait honoré comme ça. Vous comprenez? Plus de 40 ans de foi, de ministère. Personne n'avait jamais eu un temps pour dire merci, papa, pour tout ce que tu as fait pour moi. La seule récompense, ça a été les calomnies, ça a été les méchancetés. Et c'est en général notre partage en tant que conducteur. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Du coup, ils nous calomnient. Du coup, ils sont méchants. Ils disent pas mal de choses. Mais parce qu'on a cette responsabilité, on doit rester focalisé. Et on avance avec beaucoup de blessures. Beaucoup. Il n'y a pas un pasteur qui n'est pas un blessé de guerre. Vous allez dans les communions des pasteurs, vous allez mourir de rire. Quand quelqu'un va ouvrir et dire sa part, tu vas dire, aïe. Il dit, ça, non. Que je croyais que l'autre là, je pouvais. On dit, mon frère, on ne croit pas sur les gens là. Comme tu veux avancer là, avance seulement. Avance seulement, fais comme tu peux. Amen. Donc vous voyez, se soumettre, nous devons nous soumettre à nos conducteurs. Ça va faciliter le travail vis-à-vis de nous. Alors, tu es papa Emma. Chaque fois ton fils vient, il dit que ouais, merci papa, sois encouragé. Je vais faire en sorte que tu sois fier de moi. Ça va t'encourager à toujours veiller sur lui, non? Mais chaque fois qu'il ne demande aucune reconnaissance, ça va te fatiguer. Ces choses ne vont plus t'intéresser. Amen. Ces choses ne vont plus t'intéresser. Quand il va venir te dire, tu vas dire, ah, ça me regarde, ça me sert à quoi? Pourquoi? Parce que un père, qu'est-ce qu'il a le plus besoin dans sa vie? Un père, qu'est-ce qu'il a le plus besoin dans sa vie? La reconnaissance et l'honneur. C'est quoi Paul dit que quoi? Ayez pour eux de la déférence. Honorez-les. C'est le seul moyen pour que leurs blessures soient pansées. Et qu'ils puissent avancer avec vous. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui et que personne... Écoutez, comprenez pourquoi personne ne marchait avec Élie le prophète. Hein? Personne ne marchait avec lui. Il a eu du mal à trouver à qui transmettre la double onction. Il a eu du mal. Jusqu'à ce que Dieu a dit, va chercher Élisée. Alors qu'il y avait l'école des prophètes. Les prophètes eux-mêmes ont dit que les fils des prophètes ont dit que non, mon frère, merci. Non, merci. C'est compliqué. Toi là, tu es un homme méchant. Je vous dis ça, ça ne commence pas aujourd'hui. En général, la première récompense d'un pasteur authentique, c'est la calomnie et les commérages. C'est la première récompense. C'est l'incompréhension. Et l'incompréhension, mes bien-aimés, engendre l'insoumission. Alléluia. Heureusement pour ces 5000 hommes qui se sont soumis au leadership de Jésus. Et ça a produit quoi? À manger. Alléluia. Alléluia. Quand tu te soumets à ton leader, ça produit quoi dans ta vie? À manger. Il y a des gens bien-aimés dans ta vie que... J'étais en train de travailler sur un texte, sur une histoire aujourd'hui à la maison. Et pendant que je travaillais sur ça, l'Esprit de Dieu me montrait qu'il y a trois catégories de personnes que tu rencontreras dans ta vie. Il y a des gens que tu rencontreras pour une raison. Il y a des gens que tu rencontreras pour une saison. Il y a des gens que tu rencontreras pour une leçon. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens que tu rencontreras pour une saison. Il y a des gens que tu rencontreras pour une raison. Il y a des gens que tu rencontreras pour une leçon. Alléluia. Et chacune de ces trois personnes gravite tous les jours autour de notre vie. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie pour t'enseigner quelque chose. Et tant que tu n'as pas appris ça et que tu les quittes avant, ta vie n'aura pas de sens. Il y a des gens qui vont entrer dans ta vie pour apporter un changement radical. Et si tu constates le changement radical dans plusieurs domaines de ta vie, ne te sépare pas de ces gens jusqu'à ce que Dieu t'en instruise. L'apôtre Robert a changé ma vie dans le ministère. Amen. Je le dis toujours. L'apôtre Robert a changé ma vie maritalement parlant. Mais je ne me suis jamais séparé de lui. Alléluia. Mais la relation a eu des hauts et des bas. Comme toute relation. Comme toute relation. Mais je suis resté accroché à cet homme qui a béni ma vie et qui continue à bénir ma vie. Alléluia. Il y a des gens que tu rencontreras pour une saison. Il y a des gens que tu rencontreras pour toute une vie. Pour toute une vie. Alléluia. Sur quoi tu dois avoir le discernement pour ces choses-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un homme? Alléluia. Est-ce que je parle à un homme? C'est très important. C'est pourquoi je nous encourage vraiment à avoir beaucoup de respect pour nos conducteurs. Je vous assure. Hier, j'étais à une prière pour le Cameroun avec l'un de mes pères, le docteur César Bezamaota, que vous connaissez. Et il m'a appelé, il m'a dit, mon fils, je veux que tu viennes à cette réunion. J'ai dit, ok, papa. Hier, j'ai tout fait mes rendez-vous. J'ai tout fait pour que mon rendez-vous cadre, tous mes rendez-vous finissent avant l'heure là. Je suis arrivé à la réunion. Je suis arrivé légèrement en retard. 30 minutes, 40 minutes à cause des embouteillages. Ils avaient déjà commencé. Mais quand je suis entré, en me courbant pour rentrer, pour ne pas avoir gêné quelqu'un, avec tout le respect, et j'ai vu comment son épouse qui était assise à côté de lui a souri. Elle m'a souri. Je me suis arrêté, je l'ai souri. Et on a continué la prière. Et à la fin de la réunion, elle ne faisait que me regarder. Elle ne fait que me regarder. Elle ne fait que me regarder. Après, papa a dit, tu rentres déjà? J'ai dit, oui, papa. Il dit, ok, tu rentres avec nous. J'ai dit, d'accord, papa. Même si je ne rentrais pas, à cause d'eux, je rentre. Hey, papa, matin. Il y a des gens qui peuvent changer ton emploi du temps. Alléluia. J'ai dit qu'ils changent ton emploi du temps, ça ne te dérange pas. Amen. Ton papa vient encore, papa, matin. S'il vivait et que à 16h, tu devais aller peut-être voir un grand quelque chose, tu avais un grand rendez-vous quelque part et qu'à 16h, la papa dit, mon fils Martin, accompagne-moi chez ma soeur ici à Bilongue. Tu allais dire, papa, je suis occupé. Ah! Alléluia. Tu allais dire, papa, je suis occupé. Papa, oh, papa, comment tu peux m'aider à 16h? Bon, je pars, il fait la course, il revient. 17h, trop, je te ramène. Non! Son programme devient prioritaire sur ton programme. Son programme devient prioritaire. C'est ça la soumission à nos conducteurs. À nos conducteurs. Je me souviens toujours quand l'apôtre Robert, quand il m'appelait, j'étais à n'importe quelle position. Je répondais toujours présent. Quand il dit que, ouais, je pensais que tu étais dans les environs pour qu'on aille quelque part. Il dit, donne-moi 30 minutes. J'arrive, là. Je suis à Bonaberry. Il dit, donne-moi 30 minutes. Frère, je prends une motocourse. Là. Il dit, ne t'arrête sous aucun prétexte. Même si à la police, tu les sautes. J'ai rendez-vous avec ma destinée. Alors, quand tu es au nom de telle personne et qu'il se tient dans la prière, quand il prie pour toi, c'est léger. Oh Dieu,
Bénis mon fils. Oh Dieu, bénis mon fils. Il y a un mois, je suis allé voir papa André, pour lui présenter un projet. Il était tellement fier de ce projet. Il me dit, mon fils, ton projet, c'est trop bien. Je dois seulement me mettre à genoux pour dire merci. Je me suis mis à genoux avant lui. Et puis, il s'est aussi mis à genoux. J'ai dit, hé, hey, papa, tu te mets à genoux. À genoux, nous deux à genoux. Moi, il me couche. Il a commencé à dire, Seigneur, merci pour mon fils. Merci pour ce projet dans lequel tu l'as introduit. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans sa vie. Amen. Le 15 décembre, on va m'ordonner. Mais je ne vous ai rien dit parce qu'on est plongé dans un autre projet. Alléluia. C'est papa André qui m'a instruit d'entrer dans cette école. On va me donner un doctorat honoraire. Alléluia. Attendez, mais c'est lui qui m'a dit, fais ton document. Il a écrit ma lettre de recommandation. J'ai lu ma lettre, j'ai pleuré. J'ai demandé si c'était moi. J'ai appelé l'apôtre Robert. L'apôtre Robert m'a envoyé il a écrit ma recommandation. J'ai lu, j'ai pleuré. J'ai dit, ça, c'est ce que cet homme pense de moi. Ils n'ont pas écrit des choses imaginaires. Ils ont écrit le témoignage de l'esprit qu'ils ont vis-à-vis du contact que j'ai avec leur vie. Et ton conducteur, on dit qu'on va faire la recommandation. Il va, j'ai même quoi à dire, disons. J'ai même quoi à dire. Hein? Si on disait à ton papa Jo, décris ta recommandation. Attends, je prends Pajo. Pajo m'a dit, Pajo était un élément. Alléluia. Un jour, on est allé à Bamungum, c'est Bamungum, au champ. On devait aller à Bamungum et on a eu un problème avec la voiture. Alléluia. Et Pajo m'a montré le dernier poteau qu'il marchait quand il était petit pour atteindre. Tu te souviens encore des poteaux là? Et Pajo me dit, papa, j'étais un élément. Même mon père, qu'un jour on a traduit Pajo au conseil de discipline. On a convoqué les parents de Pajo. Pajo est allé payer un monsieur. Il est allé voir un monsieur en route. Il a dit, pardon, viens, tu sois mon père. C'est que Pajo n'avait pas prévu dans l'histoire. C'est que quand ils sont arrivés, on a raconté les méfaits de Pajo. Ça a tellement énervé la personne qu'il s'est levé, il a giflé Pajo comme son père. Pajo a dit, mais je t'ai appelé que tu sois comme mon fils. Il dit, non, tu as mal fait, mon frère. Je dois te taper. Alléluia. Mais Pajo dit que le gars m'a appliqué la gifle. J'ai dit que grand. J'étais payé que tu viennes représenter. Pas pour que tu m'aies. Il dit que non. Tu ne peux pas être comme responsable de ça, coupable. Je te laisse. Amen. Or, ces moments-là ont été très difficiles pour la continuité de Pajo. Parce que pendant cette période, le cœur de son père est devenu amer le concernant. Et chaque fois qu'il s'agissait de lui, son père disait des paroles pas bonnes. Et ça affectait la destinée de Pajo. Au point où, par la grâce de Dieu, on a pu régler ça avant que papa ne parte. On a eu des moments de prière avec papa. J'ai conduit papa à bénir Pajo. En présence de ses frères et en présence de ses sœurs. On a organisé des nuits de prière où papa a prié pour lui. Papa a dit, je dis que quoi? J'ai dit, dis ceci. Heureusement, c'était un homme obéissant. Vraiment, c'était un homme qui aimait Dieu. Alléluia. Et il a une femme guerrière qui était derrière. Quand il posait pas bien la main, c'est elle qui dit, posez bien la main comme ça. Non, maman, que Dieu les bénisse. Alléluia, que Dieu les bénisse. Et c'est comme ça qu'on a prié pour Pajo. Vous imaginez? Au moment où le papa de Pajo entre dans le coma, Pajo entre dans le coma. Pajo est tombé très malade au point où tous les pasteurs qui venaient à l'hôpital disaient Pajo va mourir. Tout le monde, non, c'est fini. Non, c'est fini. Il n'y avait que moi et papa. Il arrive comme ça, sa sœur Macaro que vous connaissez bien, dit papa, mon frère, il dit laisse Macaro, il va vivre. Il a fait quoi? Il va se lever et aller bâtir la maison du Seigneur. Je ne savais pas qu'on devait bâtir le temple ici. Donc, il a en train de payer ses dettes avec Dieu. Alléluia. Ne le voyez pas nerveux comme il est nerveux pour la construction ici. Il a des choses à rattraper avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et un matin, nous sommes arrivés à l'hôpital. Papa m'a dit, nous devons prier pour le déconnecter de son papa. Et c'est comme ça que ce jour-là, papa s'est mis au niveau de sa tête et j'ai tenu ses pieds. Et on a commencé à prier. On a prié pour Pajo. On a prié. Quand on est sorti de là, je crois un ou deux jours, papa est parti. Trois jours après, il est sorti, papa, et une semaine après, papa est mort. Alléluia. L'âme, son âme, l'amertume, avait rattaché leur destinée. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec les choses comme ça. Papa s'est positionné comme le représentant de son père pour qu'on rachète la vie de papa José. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est comme ça que papa José est revenu au milieu des vivants. Parce que papa José parlait déjà des choses des morts. Il parlait déjà des gens de l'autre côté. Il parlait déjà avec les gens de l'autre côté. Donc, quand vous le voyez, c'est un témoignage vivant du salut et de la délivrance du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais tout cela est lié à quoi? Parce que nous nous sommes tenus comme des conducteurs et nous avons réclamé son âme. Et nous avons dit, Seigneur, nous ne voulons pas de lui de l'autre côté. Parce que nous sommes ses conducteurs et nous devons rendre compte de son âme. Il revient ici. Il doit repartir. Continuer ce qu'il a fait. Il n'a pas commencé son œuvre. Amen. Bien-aimé, apaise le cœur de ton conducteur. Fais les choses de telle sorte que ton conducteur soit content. Quand il se tient devant Dieu, il dit, Seigneur, papa, matin. Ah! Qu'est-ce que tu vas me refuser? Donne-lui. Donne-lui. Amen. Donne-lui. Et si elle veut lever la voix et que quand elle veut dire, papa, matin, me souviens le moment où tu m'as insulté. J'ai dit, ah, Seigneur, laisse. Que ta volonté s'accomplisse sur sa vie. Manière de dire que vraiment, finis avec lui. Amen. Non, sans sérieux. Et c'est là où beaucoup, j'explique, je vais dans les détails comme ça pour nous donner de comprendre que beaucoup de gens échouent à partir de là. Il y a des choses sur lesquelles, lorsque tu as la déférence pour ton conducteur, il y a des choses pour lesquelles il ne priera pas pour toi. Le simple fait qu'il ait des pensées, il ait des bonnes pensées pour toi, Dieu tient compte de cet exauce. Il y a des moments quand je vais voir papa, papa prie, voici la prière de papa. Seigneur, tu connais ce que je te demande pour mon fils, tu connais tout. Le voici. Tu sais combien je suis fier de lui. Fais du bien à sa vie. C'est tout. Quand l'apôtre Robert prie pour moi, il ne prie pas 10 minutes, 100 heures. Il dit, Seigneur, celui-ci, Il a tout compris. Donne-lui. Donne-lui. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines choses être aussi évidentes, même pour la construction de notre temple. Voilà, papa Joseph, c'est lui qui a engrangé l'argent. Lui, il ne peut même pas. Quand il monte là, je suis sûr qu'il est choqué, il est dépassé. Parce que quand il voit l'argent qui est entré dans sa main, il se demande comment on a fait pour atteindre ça. C'est papa Joseph qui disait que est-ce que tu sais qu'on n'a pas fait un mois de travaux? J'ai dit, ah bon, pas, je sais, toi qui fais les calculs habituellement. Alléluia. C'est toi qui fais les calculs des jours, des semaines, des travail. Amen. Mais tout cela est venu à cause de l'honneur que j'ai aussi pour ceux qui me conduisent. Amen. Alors, si tu as de l'honneur avec moi qui te conduis, l'huile qui coule de là-bas pour ma vie va couler aussi sur ta vie. C'est ça la conséquence. Il n'y aura pas d'interruption. Il n'y aura pas d'interruption. Regardez Gehazi, il a fait l'interruption, non? C'est lui qui était censé avoir la troisième portion. La triple. C'est lui qui était censé. Mais parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Élisée allait dormir, mourir avec le manteau. Il allait dormir, mourir avec le manteau. Le manteau est dans la tombe avec lui. Ça réveillait un mort. Le mort, pas l'enterré, il tombe dans le trou quand les Philistins attaquent. Moi, tu imagines l'histoire. Il faut tourner un film dans cette scène-là. C'est ton frère, papa Jo. Ou bien c'est ta soeur. Ou bien c'est un membre proche de ta vie qu'on peut enterrer. Tu es en plein. Amen. On dit que voilà vos ennemis, voilà vos ennemis. Tout le monde est là. On dit, mais il est déjà mort. Il n'a plus besoin de fuir. Puisque il n'a plus besoin d'être tué. Il est déjà mort. Nous, on est les vivants. On a besoin de vivre. Il tombe sur les ossements d'Élisée. Te voilà qui court. Ton frère s'appelle Jean-Marie. Amen. Tu cours. Tu vois Jean-Marie, t'es dépassé. Tu pars, je cours vite, cours vite. Tu changes de direction, non? Tu repars vers l'ennemi. Tu repars vers l'ennemi. Tu dis que non, c'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Mais bien aimé, je vais terminer. Comment trouver sa place? Premièrement, nous devons trouver notre place en méditant les Écritures quotidiennement. Amen. Bien-aimés, la méditation de la parole est la clé qui vous donnera, qui nous donnera de trouver notre place dans la société. Alléluia. Deuxième clé. Comment trouver notre place? Comment nous devons trouver notre place? Deuxième chose, nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia! En communion avec le Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Troisième point, comment trouver notre place? Nous devons nous éloigner des mauvaises compagnies. Alléluia. Des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Éloigne-toi des mauvaises compagnies. Il y a des gens que lorsque tu vas être à côté d'eux, ils vont décharger ta batterie. Ils vont décharger ta batterie. Marche avec les gens qui vont t'amener vers le haut. Spirituellement et émotionnellement et intellectuellement. Alléluia. Si tu es étudiant, élève, marche avec des élèves qui comprennent des choses qui peuvent te faire avancer. Amen. Ne marche pas avec des faux types. Alléluia. Parce que l'association peut conduire à l'avortement de la destinée. La compagnie, bien-aimée, ta compagnie affectera toujours l'état, ton état d'esprit, ta mentalité, tes choix et ton mode de vie. Amen. Ta compagnie affectera toujours ton état d'esprit,
ta mentalité, tes choix et ton mode de vie. Donc, il faut faire attention à ces quatre points. Alléluia. Alors, avec qui vous marchez affecte ce que vous pouvez voir. Tout le monde n'est pas qualifié pour connaître votre destinée. Tout le monde n'est pas qualifié. Regardez Joseph. Il a partagé la révélation de sa destinée à ses frères. C'est vrai, c'était le programme de Dieu. Mais il y a aussi une leçon que Dieu veut nous apprendre là-bas. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas partager les secrets de ta vie. Amen. Ils vont te stopper avant que tu n'exploses. Alléluia. Ils vont te stopper. Donc, lorsque vous parlez de votre vision aux mauvaises personnes, vous attirez quoi? L'envie. Vous attirez quoi? La haine. Vous attirez quoi? Le mal. Alléluia. Donc votre rêve devient une menace pour les médiocres. Ne partage pas tes rêves à tout le monde. Comment vous devez trouver une place? Alléluia, votre place. Un autre point. Vous devez vous déconnecter du découragement. Ah oui, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils se découragent trop vite. Alléluia. Trop vite. Habakkuk 2, le verset 2 et 3. Habakkuk 2, 2 et 3. Habakkuk dit que nous devons attendre la prophétie. Si elle tarde, nous devons attendre. Ça veut dire qu'il peut y avoir un retard même dans l'accomplissement de la prophétie. C'est prévu par Dieu. Amen. C'est prévu. Ce retard n'est pas un retard, mais c'est un temps où Dieu maximise notre foi, où Dieu maximise et maturise notre patience. Alléluia. Jacques le dit, Jacques chapitre 1, le verset 2 et le verset 3. Alléluia. Le verset 2 et le verset 3. Bien-aimé, toute destinée est pour un temps déterminé et les visions parlent à la fin. Il faut de la foi et de la persévérance pour expérimenter les promesses de Dieu. Alléluia. Pour expérimenter les promesses de Dieu, il faut de la foi et de l'espérance. Cinquième et dernier point, pour pouvoir trouver sa place, vous devez fuir le piège des limitations et de la compétition. Amen. Vous ne devez imiter personne. Vous êtes unique, vous êtes particulier. Fuyez le piège des limitations et de la compétition. Dans l'imitation et la compétition, les gens essaieront de réaliser la vision, la destinée de quelqu'un d'autre. Amen. Ils abandonnent leur voie pour courir la voie d'une autre personne. Dans l'imitation et la compétition, les gens essaient de surpasser, d'éclipser ou de défigurer quelqu'un. Jusqu'à ce que vous quittez votre lot, vous ne localiserez pas votre sort dans la vie. Amen. La vie n'est pas conçue pour l'imitation et la compétition. La vie est conçue pour la pleine expérience des potentiels et la manifestation de la destinée. Alors, l'imitation et la compétition invitent à des complications dans la vie. Alléluia. Tu mets la complication dans ta vie. Le meilleur que vous puissiez être dans ce monde est celui que Dieu veut que vous soyez. Le meilleur que vous puissiez accomplir dans ce monde est ce que Dieu veut que vous obteniez. L'imitation est une limitation. Amen. Imiter tes limites. Amen. C'est de ça qu'il est question. Imiter tes limites. Alors, vous limitez votre vie et votre destinée lorsque votre combat est d'essayer d'être quelqu'un d'autre. La concurrence est une complication. Ne combattez jamais pour faire impression. Ne combattez jamais pour impressionner les autres. Alléluia. Ne combattez jamais pour impressionner les autres. Jésus n'a jamais imité Jean-Baptiste. Alléluia. Alors que Jean-Baptiste était plus connu que lui au départ. Amen. Jean-Baptiste était son grand frère en âge, était son cousin dans la famille, mais il ne l'a jamais imité. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous. Et je crois que par cette exhortation, nous allons pouvoir
avancer dans le projet que Dieu a pour nous. Amen. En tant qu'homme, en tant que groupe d'hommes, mouvement d'hommes, alléluia, en suivant le conducteur qu'il nous a donné. Amen. Afin d'atteindre le plan que Dieu nous a, auquel il nous a associés. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.